Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Une production Binge Audio.
Attention, certains événements décrits sont choquants par leur violence. Ici, on noie les Algériens. Les archives oubliées du 17 octobre 1961. Épisode 1.
Tu vas là, on voit, c'est marqué sur le carton.
Oui, 17 octobre 61. Bon, bah, tu vois, il y a déjà des cassettes, là. On va regarder.
Bon, vous nous mettez en route.
Eh ben, c'est
voilà.
Parti.
Raconte-moi.
C'est parti.
Ce que j'ai eu.
Voilà. Donc, je voudrais que vous me racontiez ce que vous avez vécu quand vous étiez en France.
Raconte-moi comment tu en es arrivé donc au 17 octobre et comment tu as vécu ces journées-là.
C'est quoi le 17 octobre 1961 ? Je pourrais répondre, ça dépend pour qui.
Je donne ma parole, il ne s'est rien passé à Paris. Le 17 octobre, on a reçu un ordre.
Il ne s'est rien passé.
Vous avez été prévenu quand ?
Vers 5h30, 6h.
Le jour même.
Le jour même. Le jour même, et c'est le jour même que tout le monde s'est engagé.
On s'est dit, une grande manifestation de masse, le soir, sur les Champs-Élysées, sur les grands boulevards, là où se trouvent les étrangers, la presse internationale, etc., attirera l'attention du monde entier sur la situation faite aux travailleurs immigrés en France.
Tous à la Concorde, tout le monde. Personne ne doit rester à la maison. Tout le monde à la Concorde.
J'étais aux manifestations. On a crié Algérie libre, tatata, batata.
Une manifestation pacifique comme celle-là, il suffisait de la canaliser. On s'attendait à des bousculades, à des heurts. Mais on ne s'attendait pas à ce que la violence de la répression atteigne ce niveau.
C'est vrai que pour comprendre ce qu'est le 17 octobre, il faut peut-être revenir à ce qui s'est passé ce jour-là.
Emmanuel Blanchard, historien.
Ce qu'on retient en général, c'est plutôt la répression que l'événement. C'est-à-dire ce qui a marqué les esprits, les chairs, ce qui a fait le drame et l'exceptionnalité terrible du 17 octobre, c'est cette répression policière, c'est ce massacre d'État. Mais ne retenir que cela du 17 octobre, ça serait d'une certaine façon ne pas rendre hommage à ces victimes et à toutes celles et tous ceux qui, ce jour-là, sont descendus dans la rue. Et ce qui est important pour moi, c'est d'essayer de comprendre pourquoi sont-ils descendus et quel sens cela avait et en quoi cela faisait sens politiquement pour eux et elles aussi.
Communiqué du préfet de police de Paris, Maurice Papon, du 5 octobre 1961. Dans le but de mettre un terme sans délai aux agissements criminels des terroristes, des mesures nouvelles viennent d'être décidées par la préfecture de police. En vue d'en faciliter l'exécution, il est conseillé de la façon la plus pressante aux travailleurs algériens de s'abstenir de circuler la nuit dans les rues de Paris et de la banlieue parisienne, et plus particulièrement de 20h30 à 5h30 du matin. Ceux qui, par leur travail, seraient dans la nécessité de circuler pendant ces heures pourront demander au secteur d'assistance technique de leur quartier une attestation qui leur sera accordée après justification de leur requête. D'autre part, il a été constaté que les attentats sont la plupart du temps le fait de groupes de 3 ou 4 hommes. En conséquence, il est très vivement recommandé aux Français musulmans de circuler isolément, les petits groupes risquant de paraître suspects au rond des patrouilles de police. Enfin, le préfet de police a décidé que les débits de boissons tenus et fréquentés par les Français musulmans d'Algérie doivent fermer chaque jour à 19h.
On voyait des teints basanés après 20h, on les interpellait, on les malmenait. Non seulement les interpellait, on les malmenait, mais ils disparaissaient.
Ali Haroun, responsable politique de la Fédération de France du FLN.
La répression avait énormément de moyens d'éliminer les gens. Donc, il fallait absolument réagir. Et puis, on s'est dit, pourquoi un couvre-feu appliqué uniquement aux Algériens, c'est une mesure qui est tout à fait injustifiée et raciste. D'abord, on a temporisé. On a étudié le moyen de réagir contre ça, c'était de faire une démonstration en masse le soir, avec hommes, femmes et enfants, mais une démonstration pacifique. D'ailleurs, les directives étaient bien précises, pas d'armes, même pas le moindre couteau.
Le 17 octobre, on a reçu un ordre.
Il faut aller propre, il faut vous habiller proprement. Pas de couteau, rien du tout.
Tous à la Concorde, tout le monde.
Il fallait, c'était pacifique. Donc il fallait se mettre à genoux devant les flics. Hein.
De l'autre côté, il y avait déjà des Algériens qui descendaient et qui nous disaient retournez, c'est fait. Il commence déjà, la répression commence. On est descendu pour aller à notre hôtel.
Raïm Rezigat, manifestant.
Et de loin, on arrive et on voit que l'hôtel était complètement encerclé par les CRS. Donc en fait, ils attendaient les gens qui retournaient des manifestations pour les embarquer.
Ben, ils ont fait un genre de tunnel, vous voyez, un genre de tunnel, barricadé avec des barrières et tout ça.
Wazen Saad, manifestant.
Mais par terre, plein de bouteilles cassées. Parce que la plupart de nos compatriotes qu'ils ont fait venir des hôtels, ils n'ont pas de chaussures. Il fallait qu'on traverse tout ce couloir-là.
Vous l'avez vu, ça.
Ouais, bien sûr, moi qui vous le dis. Plein de bouteilles cassées, et puis avec des fils barbelés par terre, c'est le premier qui tombe, alors, et alors on commence encore à le taper.
Et vous savez qu'ils nous ont après accueillis avec des policiers, des gardes mobiles, des CRS.
Ils avaient des casques et ils avaient des chaussures militaires.
Saïd Abtout, manifestant.
Et ils étaient tout en noir, la tenue de flics, policiers. Et là, quand les flics rentraient quand même dans le métro, quand ils voyaient quelqu'un basané, qui est un type nord-africain, ils le faisaient descendre, ils l'arrêtaient.
Dans les compartiments,
oui,
dire, dans les métro.
Dans les rames, oui, oui.
Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Au début, ils nous ont encerclés.
Messaoud Awam, manifestant et membre du FLN.
Ils ont gardé les issues. Ils croyaient qu'on allait fuir, mais on était restés là-bas. Et tout à coup, je suis interpellé avec deux policiers qui descendaient du car. Ils avaient des mitraillettes et j'ai remarqué qu'ils avaient des gilets pare-balles. J'ai pas eu le temps de leur parler, que j'ai reçu déjà, je sais pas moi, une rafale de coups de bâton.
Moi, j'ai été massacré la tête.
Wazen Saad, manifestant.
Un coup de crosse dans la tête. Ouais. Des grosses matraques, là.
À quel moment?
Je vais vous montrer, là. Le 17 octobre.
Ah oui, je vois, oui. À quel moment?
Le 17 octobre, vers les coups de 9h, 8h30, 9h.
Et à Concorde?
À la Concorde. Là, c'est la charcuterie. C'est la charcuterie, c'est la boucherie qu'il y a là-dedans.
Mais ils tapaient,
non? Ils tapaient. Ouais. Ils tapaient avec des coups de barre de fer, des coups de crosse, de tout.
Et là, en arrivant, j'étais presque pratiquement au groupe de tête, parmi les premiers. Et quand j'ai vu le massacre, je me suis sauvé. Ils sont venus déchaîner sur les manifestants, la matraque qui massacrait les gens. Ils tapaient sur la tête et quand ils tombaient, ils continuaient avec les potes militaires à leur taper sur la tête.
J'aurais voulu ton témoignage sur ce que tu as pu voir et ce que tu as pu apprendre concernant les événements d'octobre 1961 et ce qui s'est produit durant cette période-là.
Paul Rousseau, syndicaliste policier.
Malheureusement, les forces de police, à l'époque, n'étaient pas conditionnées pour dire qu'il fallait absolument respecter ce que l'Algérie voulait, c'est-à-dire sa paix. Et malheureusement, il y a eu des ordres donnés à l'époque, et j'ai vu des policiers systématiquement les frapper à coups de matraque, à coups de nerfs de bœuf, à coups de crosse de pistolet, même certains qui ont tiré dedans et qui ont balancé par-dessus le pont des Algériens. Ça, je l'ai vu.
Là-bas, sur les fréquences radio, on entendait que tout allait très mal.
Roger Blanc, policier.
On entendait sur les ondes les Nord-Africains qui hurlaient, qui criaient et qui disaient « Je ne sais pas nager, je ne sais pas nager ». Et les collègues de dire ben, « Ça ne fait rien, saute quand même ». Et là, bien évidemment, il y en a qui sautaient dans la Seine, et comme il y a aussi le parapet en bas du pont, d'autres qui s'écrasaient sur le pont.
Quand j'ai vu la Seine, alors j'ai compris que c'était pour nous tuer, nous jeter à l'eau comme les autres. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils nous achèvent avec des coups de bâton au crâne. Et ils vous ligotent les pieds, les mains, ils vous dépouillent de tous vos papiers. Et puis ils vous prennent par les pieds, par la tête, ils vous balancent dans l'eau. Alors comme je savais nager, je me débattais comme ça. J'avais les mains attachées, les pieds attachés. Et puis j'avais des blessures par le crâne, il était, je sais pas moi, il y avait 4 ou 5 coups dans la tête. J'avais des cheveux longs à l'époque, j'étais jeune, je devais avoir 25 ans. Par la suite, j'ai commencé à m'éloigner de la rive, mais tout à coup, j'ai aperçu des signaux, des torches. Ils ramaient avec une petite barque là, avec des rames, et des torches électriques, ils tapaient sur la tête. Un éventuel rescapé, il lui tape dessus. Pour vous achever, je voyais qu'il y a une barque qui s'amène. Ben, moi, j'ai entendu dire, ben, regarde par là, il y a quelque chose qui bouge. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me suis laissé couler, parce que je pouvais tenir jusqu'à une minute, à deux minutes sous l'eau, hein, sans respirer. C'est ce qui m'a permis de leur échapper. Et finalement, ils en avaient marre, et ils ont cru que j'étais mort. Ben, j'ai entendu dire, moi, je me trouvais sous l'eau, ils leur disaient, ben, je crois qu'ils sont bons tous les deux, hein, il n'y a plus personne. Alors, ils sont partis. Ils nous ont pris pour morts. Mais l'autre, effectivement, il était mort. Parce qu'il était déjà tabassé au ventre, au crâne. Je suis resté dans l'eau.
Vous l'avez vu, l'autre
Non, je n'ai pas vu son cadre. Il faisait nuit noire. Puis il pleuvait. J'entendais des vagues d'eau, mais j'ignorais si c'était eux ou bien lui. Parce que lui, il ne savait pas nager. Puis il est, pour la bonne raison qu'il a reçu beaucoup plus de coups que moi, il n'avait aucune chance de survivre. Alors, je me suis accroché à un buisson. Je me suis accroché là. Je me suis libéré de mes mains. Et j'attendais la levée du jour, enfin, l'espoir de survivre jusqu'au lendemain. Et finalement, je tremblais. Je commençais à avoir de la fièvre, il pleuvait, tout ça. Et moi, j'avais perdu beaucoup de sang. Ça saignait de partout. Et bien, jusqu'à 7 heures du matin, je me rappelle. C'était 7 heures du matin, mais il faisait encore nuit. Il faisait encore... sombre. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai commencé à ramper. J'ai continué jusqu'à un foyer conçu pour des immigrés, enfin, en particulier pour des Nord-Africains. Effectivement, je me rappelle, ils m'ont pris, ils m'ont entouré, j'ai perdu connaissance. Ils ont fait venir un médecin, il m'a donné les premiers soins, ils m'ont bandé la tête, et puis j'entendais le médecin leur disait, ben, maintenant, il a perdu beaucoup de sang, il faudra le diriger vers un hôpital. Ils ont fait venir une ambulance. Mon compagnon, c'était l'hôpital Boujon, un grand hôpital. Entre-temps, il y avait un Algérien qui a appris qu'il y avait un type qui a échappé à la Seine. Il est venu me voir dans notre salle, il avait un bandage au ventre. C'est un Algérien. Il me dit, Et on t'a jeté à la Seine? J'ai dit oui. Il me dit moi aussi. Il me dit écoute, je vais te donner un conseil. Je leur ai échappé comme toi. Ils sont venus à l'hôpital pour prendre des renseignements. Ils ont pris l'autorisation de me ramener au commissariat. Ils sont allés m'achever. Ils ont voulu me dégoter, me jeter à la Seine. J'ai pris la fuite. Ils m'ont tiré dessus et j'ai reçu 2 balles. Voilà que mon ventre est troué de balles. J'ai pu rejoindre le. Je sais pas moi, une ruelle, j'ai crié au secours, les flics veulent m'achever, les flics veulent m'achever, ils m'ont abandonné. Alors j'étais de nouveau hospitalisé. Il m'a dit maintenant, ça va, mais je te conseille de ne pas quitter l'hôpital. Si jamais des policiers viennent te demander pour te prendre avec eux, ne pars pas.
Ça c'était le 17 octobre.
Le 17 octobre sur le pont de Clichy.
Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'Algériens qui ont été jetés à la Seine dans ces conditions?
Le nombre, je ne peux pas le dire, mais il y en a eu beaucoup. Par centaines, ce serait peut-être un grand mot, mais enfin, il y en a eu plus de 100 seulement jetés à la Seine, ou par rapport à ce que j'ai vu moi-même, parce qu'il y en a eu d'autres au pont de Suresnes et au pont de d'Anières aussi. Hein. Et ma foi, j'ai même été pris à partie moi-même, puisque j'étais contre ce genre d'action.
Tu as été pris à partie, c'est-à-dire?
Par mes propres collègues.
C'est-à-dire?
Ils voulaient me casser la figure parce que je disais c'est une honte de voir les choses pareilles. On a prétendu que c'était les Algériens qui avaient tiré sur les policiers, c'est pour la raison pour laquelle les policiers les ont jetés vers le sud-bord. C'est ce qui a été dit par certaines autorités. Mais en réalité, je pense que justement pour se débarrasser de gens qui avaient été exterminés par l'ignorance, si on peut dire ça, enfin tués, eh bien je pense que c'était. En les mettant à la Seine, le coup on les emmenait, ça nettoyait le crime, disons, du moment.
On entre dans une période qui est déjà très dure hein, pour l'immigration algérienne. Il y a déjà des camps d'internement en France, il y a déjà des rafles multiples, mais cette pression policière, elle s'accentue. Et ça accentue très fortement. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les hommes qui partent le matin pour travailler savent pas s'ils vont rentrer chez eux. Parce qu'ils peuvent être raflés le matin, amenés dans un commissariat, au centre d'identification de Vincennes. Et dans ce cas-là, ils disparaissent parfois plusieurs jours. Tout simplement, ils sont détenus, mais sans base légale, hein, le plus souvent. Et ils réapparaissent quelques jours plus tard, soit en ayant juste été internés, parfois ayant été maltraités. Et donc, il y a beaucoup de questionnements, déjà, à cette époque-là, sur l'emprise policière, sachant qu'en même temps, une disparition de quelques jours n'inquiète personne, puisque c'est quelque chose d'habituel. Voilà. Un hôtelier, quand il a un Algérien qui disparaît pendant 48 heures, c'est la routine, d'une certaine façon. Au bout d'une semaine, il commence à s'inquiéter. Et ça va être important pour ce qu'on va dire sur la suite.
Un soir, vers 5 heures, on a vu arriver un sergent qui nous dit il y a un truc important en bas.
Gérard Grange, infirmier militaire.
On se retrouve en bas, dans la cour. Il fallait avoir le casque lourd et la tenue du combat. Voilà, c'est tout. Alors, il y a un type, je ne sais pas qui c'était, qui nous dit, un gradé, qui nous dit, il y a une sale histoire, il se passe un truc très grave, enfin, il faut que vous soyez sérieux, alors on a pris des types sérieux. Donc on est parti avec notre casque lourd, vers 6 heures du soir, dans un camion militaire, et moi je ne connaissais pas Paris du tout, j'arrivais de Marseille. Donc je ne savais pas où on allait. Et il y avait des types qui connaissaient mieux Paris qui m'ont dit, c'est drôle, on arrive vers le palais de la porte de Versailles. Et à ce moment-là, quand on est arrivé, on a vu des projecteurs et puis on a vu des gendarmes mobiles. Et une ambiance effroyable, enfin, c'était tendu. Et on nous a fait descendre et on nous a dit, maintenant, vous allez dans telle salle. On arrive dans une espèce de hangar. Et on nous a dit, voilà, il y a eu des rafles, il y a des Algériens, il faut leur donner à manger. Alors dans un premier temps, moi, j'ai commencé à faire des sandwichs. Pointe à la ligne. Des sandwichs, des sandwichs, des sandwichs. Et à un moment donné, dans la soirée, il y a des copains qui arrivent très blêmes, en me disant, tu sais que c'est dégueulasse ce qui se passe. Viens voir, je lâche mes sandwichs, et je vais voir par une espèce de hublot. Et là, là, j'ai vu l'arrivée du comité d'accueil avec les bus de la RATP, là. Et on a vu des types qui passaient devant une vingtaine de bonhommes, en civil d'ailleurs, tous en civil, qui avaient des planches à la main et qui tapaient et sur la tête et puis dans les parties des types. Les types étaient tous ensanglantés. Et c'était affreux. Enfin, ça hurlait. Puis on n'était pas prêt à ça. Tout d'un coup, j'étais plongé dans un autre monde. D'un coup.
Quand on est arrivé dans le palais des sports, même à l'intérieur.
Isidore Lifshitz, appelé au service de santé des armées.
Bon, il y avait là, je pense, à peu près 8000 personnes. Et un bois absolument indescriptible, et des gens qui criaient. La première impression était une impression abominable. Et pour moi, elle l'était d'autant plus que, bon, je suis un enfant de la guerre, je suis né en 35, j'ai vu les gendarmes faire des rafles. Et c'est pas pour dramatiser les choses, mais c'est simplement le rapport qui s'est établi dans ma pauvre tête. Ça m'a rappelé l'arrivée des trains à Auschwitz, où les gens descendaient des wagons complètement hagards, effrayés, aveuglés par la lumière, les casques qui brillaient et les aboiements des chiens.
Et sur le coup, 5 heures, on nous a re-embarqués. La différence, c'est que là, on a été affecté dans les palais d'exposition, où on avait mis les types par 100, parqués avec des barrières pour les manifestations. Hein. Voilà. Il y avait une monde de fous. Ça sentait affreusement mauvais. Les types se faisaient dessus. Donc ça devenait odieux, sale. Enfin, c'était écœurant, quoi, si vous voulez. Et quand il y en a qui criaient trop fort sur les barrières, qui s'accrochaient aux barrières, vous avez les flics qui tapaient à coups de ceinturon. Ça, je l'ai vu de mes yeux. Et nous avons comme ça vécu encore toute une nuit. Et on nous avait dit, on liquide tout l'amphithéâtre parce qu'il y a Ray Charles qui doit chanter. Et alors, il ne fallait pas qu'il fasse de bruit. Donc, dès qu'il y avait le moindre bruit, ça tapait. Ça, je l'ai vu aussi. Et alors, ça a duré.
Et puis, ni à manger ni à boire pendant 3 jours. Rien. C'était vraiment une catastrophe. Une catastrophe.
Ali Germani, manifestant.
On croyait tous mourir, alors on attendait notre tour. Et c'est vraiment malheureux.
Et à un moment donné, j'avais un capitaine, dont je ne sais pas le nom bien entendu, il était vert. C'est horrible. Suivez-moi. Alors, on l'a suivi. On ne savait pas où on allait. On n'y comprenait rien. On ne comprenait rien du tout ce qui se passait. Et il nous a mené dans une espèce de local à balai, là. Vous savez, de... Oui. Enfin, bon, je ne sais pas quoi, pour mettre les poubelles, quoi. Il a ouvert la porte, il y avait 9 morts. Et c'est la première fois dans ma vie que je voyais un mort. Il faut comprendre aussi l'état d'esprit, là. J'ai vu 9 types allongés par terre qui étaient morts. Alors, évidemment, le type a dégobillé, le capitaine, en sortant, en disant, c'est une honte, c'est horrible.
Et puis au bout de là, au bout de 3 jours, ils nous ont changé. Ils nous ont emmenés à Vincennes. Et puis on est resté là. Et puis il n'y a pas de soins, il n'y a pas de médecins, il n'y a rien du tout. Hein. C'est le Dieu seulement qui... Vraiment, je vous dis, vraiment une catastrophe. Ah ouais. Et ensuite, un beau jour, un matin, ils nous ont dit « Allez, debout! Allez, tout le monde debout !» Vers 1h du matin, comme ça. Bon, on a dit « Ça y est, on nous relâchait peut-être. » Mais c'était pas du tout ça. Et quand on est sorti dehors, oh là là, on a vu la chaîne des camions militaires. « Allez, montez dans les camions !» Et ils nous ont emmenés dans les camions militaires. On ne sait toujours pas où on doit aller. Et puis quand on est monté dans les camions, et ils ont mis la police au cul du camion, pour pas qu'il y en ait un qui saute du camion. Arrivé à Orly, allez, tout le monde par terre. On descend d'Orly. Et on avait qui montait dans les avions. On a dit aussi qui les amène. On se demandait aussi qu'on allait. Et puis il y avait un Français là, vraiment, il avait des larmes aux yeux. Il m'a dit, il vous envoie chez vous, en Algérie. Et on était entouré de fils barbourés d'au moins 1,50 m de haut. Alors là, ils étaient sûrs qu'on ne pouvait pas se sauver. Il n'y avait ni l'eau à boire, ni rien du tout. Rien. Et bien, on est resté encore 3 jours là-bas. Alors, ils nous emmènent dans les camions. Mais alors, des Telagma jusqu'à Agbou, il y a une trotte. Hein. Alors, on a fait une escale à Sétif. On était fatigués, alors on était bousculés. Ils prenaient les virages comme des fous. Et on montait l'un sur l'autre, on se donnait des coups de tête derrière. C'est inimaginable. On est arrivé à la prison d'Agbou. Tout le monde est signé, tout le monde pleurait. Incroyable. Un massacre que je vais me souvenir toute ma vie.
Le lendemain, le commissaire Danière, le commissaire Mézières, redonne des bidules à ces hommes parce que les bidules sont cassées. Un bidule, c'est un manche de pioche. Et donc, vous imaginez la force de frappe qu'il faut pour avoir cassé des bidules. Et donc là, ce qui s'organise, c'est la plus grande rafle de l'après-Seconde Guerre mondiale à Paris, puisque 12 000 personnes sont arrêtées ce soir-là. 12 000 personnes sont arrêtées et internées. Tous les lieux possibles et imaginables sont réquisitionnés. Et donc, ça nous prouve là que l'intention est là de rafler et d'interner pour mettre en scène les expulsions. Et on va avoir, dans les jours suivants, effectivement, un pont aérien, quelques vols qui vont être mis en place. Et là où il y a tous les journalistes qui sont là pour filmer les départs et montrer, regardez comme ces personnes sont bien traitées, on se contente juste de les renvoyer en Algérie parce qu'elles n'ont rien à faire là.
Et alors, à ce moment-là, c'était le matin, ça a été curieux, parce qu'on nous a mis, nous les gars de Vincennes, on nous a mis dans les camions, on était hébétés de fatigue, et ils ont dit, vous avez l'autorisation pour 1 heure d'aller au foyer. Et à ce moment-là, ils ont mis la télé du foyer, et on a vu Roger Frey. Et Roger Frey a dit, il ne s'est rien passé. Je donne ma parole, il ne s'est rien passé à Paris hier et avant-hier. Puis sans explication, on a dit, maintenant vous remontez dans les camions. À Vincennes, ils ont dit, allez prendre une douche, vous aurez droit à une permission exceptionnelle à partir de 6 heures. J'ai pris le métro, et je suis à la porte de Montreuil, chez mon oncle. Alors je suis arrivé chez lui, j'étais assez excité, il faut dire. Et je lui ai dit, voilà, je viens de voir des horreurs, enfin... Tu peux pas savoir ce qui s'est passé, etc. Bon. Alors mon oncle m'a dit, mais mon petit, tu es un peu énervé, hein. Tu es un peu excité, hein. D'ailleurs, à la télévision, on dit, tu exagères. C'est pas vrai, regarde. On vient d'entendre le ministre. Il s'est rien passé, bon. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'on ne me croyait pas. Mon propre oncle, un type remarquable, hein. Et si mon oncle ne me croit pas, qui va me croire?
À suivre.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer, Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.